beaucoup, Guillaume Frixion. Puis on vous félicite hein, pour votre conscience professionnelle quand même.
Oui, trois, c'est pas mal.
Trois baos à la potée auvergnate, vous êtes parfait.
Ça me fait plaisir de l'entendre, sachez-le.
Merci, Guillaume. Allez, on marque une courte pause et dans un instant, comme promis, le journal, la météo et ils refont la France.
Retrouvez toutes les chroniques dont refait nos régions sur l'appli RTL.
À l'occasion des 120 ans de la Foire de Paris, rendez-vous Porte de Versailles du 1er au 12 mai pour 12 jours de shopping et de festivités. Voyagez à travers 40 destinations, trouvez votre nouvelle voiture, rénovez votre intérieur ou régalez-vous. Toutes vos envies sont à la Foire de Paris. Prenez vite vos billets sur foiredeparis.fr.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, ils les ont à 1,79€.
Les avocats ?
Très oui, en ce moment chez Lidl, l'avocat est à 60 centimes la pièce.
Quoi ? 60 centimes la pièce en lot de 3 ? Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
C'est l'avocat Sion de Lidl, non ?
Avec des avocats à ces prix-là, il n'y a plus de justesse, ouais.
Et on est juste mal.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Catégorie 1, origine Kenya, Pérou, Brésil, Afrique du Sud ou Israël selon arrivage en supermarché. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Renault. Le prix du carburant augmente, mais vous n'êtes pas prêt à passer à l'électrique. Faites des économies avec la motorisation Renault E-Tech Full Hybrid. Jusqu'à 40% de consommation de carburant en moins et jusqu'à 1100 km d'autonomie. Renault Austral E-Tech Full Hybrid. À partir de 380€ par mois et 2 mois de loyer offert.
Austral Evolution E-Tech Full Hybrid 200 hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4 500€, deuxième et troisième loyer offert. Offre à particulier du 1er au 31 mai si accordiaque, voire conditions sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Ce dimanche, avec la super tirelire de 2 millions au quintet plus du PMU, ça va être super.
Ah bah t'as dit deux fois super.
Oui, mais ça sera vraiment super. Avec des super courses, des super chevaux.
Ah là, t'as dit trois fois super.
Ah oui, mais je vais le dire encore, ça va être un super moment.
Ouais, bon, en vrai, je vois pas d'autre mot.
Ce dimanche, la super course fait la super tirelire. Tentez de gagner la super tirelire de 2 millions d'euros au quintet plus.
PMU. Voir conditions en point de vente PMU. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RTL.
RTL, il est 19h. Oh, 19h02. C'est l'heure du 360 secondes pour tout savoir avec vous. Charles Ducrot, bonsoir.
Bonsoir Isabelle, bonsoir Vincent et bonsoir à tous. Rajouter des kilomètres aux patients pour faire des économies. Une réforme du transport sanitaire se prépare. Les ambulances et taxis qui prennent en charge des malades ont coûté plus de 5 milliards d'euros à la sécurité sociale en 2022. Alors pour diminuer les dépenses, l'idée serait de faire covoiturer les patients, quitte à rajouter jusqu'à 30 kilomètres sur le trajet. L'idée n'est pas au goût de la patientèle de ce centre de dialyse au sud de Bordeaux. Vous vous êtes rendu pour RTL, Denis Grandjou.
Oui, dans la grande pièce médicalisée de ce centre de dialyse, tout le monde est informé du futur décret. Allongée sur son lit, Micheline réagit.
On est très bien comme ça, je vois pas ce qu'ils vont nous faire là. Moi je pense que c'est quelque chose de très compliqué. Mais si c'est un ramassage scolaire qu'ils nous font, moi je vois ça mal. Hein.
Après le ramassage scolaire, ce sera le ramassage médical, qu'ils arrêtent les voitures, qu'ils prennent des autobus.
Laurence.
J'ai un staphylocoque doré qui se promène dans le corps. Quand je fais des poussées de fièvre, je suis contagieuse. Je vais contaminer toute la voiture, là. C'est hors de question.
L'équipe qui accueille les dialysés partage cette position. Béatrice dirige le centre.
Je vois ça d'un mauvais œil. Déjà passé 4 heures, c'est pas évident. Si en plus ils doivent perdre une demi-heure, une heure de plus dans les transports, c'est pas très très bien. Pour la gestion, ça va être compliqué aussi. S'ils viennent d'un plusieurs, eh ben, forcément on va les faire attendre. On va pas pouvoir brancher tout le monde en même temps.
Et dans ce centre de dialyse qui accueille chaque semaine une trentaine d'hommes et de femmes, 20 d'entre eux au moins pourraient être concernés par ce partage du transport sanitaire.
Reportage de Denis Grandjou pour RTL.
Les organisations lycéennes appellent à rejoindre la mobilisation étudiante pour Gaza dès lundi.
L'Union syndicale lycéenne, l'USL, annonce des blocages dans les lycées via un communiqué. Ils réclament un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la reconnaissance de l'État palestinien par la France. À Sciences Po Paris, à Lyon ou encore à Lille, plusieurs évacuations de manifestants ont été opérées par les forces de l'ordre dans le calme aujourd'hui. Devant le Panthéon à Paris, ils sont encore une centaine à manifester. RTL, 19h04. Comment réduire de moitié l'usage des pesticides sans pénaliser les agriculteurs? Cette question alimente la méfiance des agriculteurs et triture les méninges du gouvernement. Il présentera lundi son plan éco-phyto. On en connaît maintenant les grandes lignes et la devise. Pas d'interdiction sans solution. Parmi ces solutions, justement, l'accélération de la recherche. 150 millions d'euros investis. Virginie Garin, vous avez pu visiter pour RTL un laboratoire d'Arvalis, l'Institut du Végétal, où les alternatives fleurissent.
Oui, dans cette ferme laboratoire, les expériences sont menées grandeur nature sur 47 hectares de culture. Par exemple, ce robot tiré par un tracteur, Morgane Vidal est ingénieure, et elle traque les adventices, les mauvaises herbes.
C'est un pulvérisateur avec des yeux, en fait, avec deux jeux de caméras qui vont permettre de détecter les adventices et un autre qui va permettre d'adapter en fait la pulvérisation.
Ce qui permet de réduire de 80% les pesticides. Autre piste, traiter les semences avec de la lumière. Romain Valade est phytopathologiste.
Plutôt que de mettre un traitement chimique sur la semence, grâce à un prototype qui envoie de la lumière sur une longueur d'onde spécifique, c'est essayer de détruire l'agent pathogène qui est sur ou dans la semence sans empêcher la germination de la plante.
Frédéric Arnoux est céréalier. Il teste depuis 3 ans pour Arvalis un logiciel qui lui permet, grâce à des algorithmes, en fonction de la météo, de la date des semis, de savoir quand il doit mettre des fongicides. Avant, il en mettait 3 fois par an.
Depuis 3 ans que j'utilise cet outil, je fais au moins un fongicide en moins par rapport à ce que je pouvais faire avant. Donc oui, ça a permis d'améliorer les choses.
Mais toutes ces techniques coûtent cher. Le gouvernement va donc consacrer 250 millions d'euros par an pour aider les agriculteurs à s'équiper.
Virginie Garin, spécialiste agriculture d'RTL.
Amnesty International et plusieurs ONG réclament la libération d'une blogueuse de 29 ans.
Son nom, Manael Al-Otaibi, incarcérée en Arabie Saoudite, condamnée à 11 ans de prison. En cause, Émilie Beaujard, son engagement féministe.
Oui, cette femme prof de fitness qui aime l'art et le yoga utilisait les réseaux sociaux pour défendre les droits des femmes. Elle poste des messages d'émancipation et se filme en faisant du sport, en brassière et cheveux lâchés. Voilà ce qu'elle disait en 2019 dans une interview.
C'est important pour moi de faire mes propres choix, d'avoir ma liberté d'action et de ne pas être contrainte par la société, les coutumes et les traditions.
Mais sa liberté finit par irriter le pouvoir qui l'arrête en novembre 2022. Lina El Atloul est militante saoudienne pour les droits des femmes et membre de l'association Alkist.
Pendant 5 mois, elle est restée en isolement avec une jambe cassée. Maintenant, on ne sait plus exactement dans quelles conditions elle est, étant donné qu'elle n'a plus le droit de contacter sa famille de nouveau. Donc, elle est vraiment coupée du monde. On est dans un état policier en Arabie Saoudite. Beaucoup de personnes se font arrêter pour vraiment rien, parfois c'est juste des tweets en solidarité avec d'autres femmes détenues.
Selon son association, au moins 14 autres femmes sont détenues dans les prisons saoudiennes pour leur prise de position pour plus de liberté.
Émilie Beaujard pour RTL. L'Allemagne et la République tchèque accusent un groupe de hackers russes d'avoir mené plusieurs cyberattaques dans leur pays. Le chargé d'affaires russe à Berlin a été convoqué. L'Union européenne promet une réponse ferme. Les États-Unis condamnent et la Russie juge ces accusations infondées.
Du sport et du foot avec le début de la 32e journée de Ligue 1.
Et une première affiche en ce moment même, le derby d'Occitanie Toulouse-Montpellier, et vous nous faites vivre la rencontre sur RTL. Patrick Hisson, bonsoir.
Bonsoir, c'est parti depuis 7 minutes et toujours 0-0 entre Toulouse et Montpellier dans ce match avec peu d'enjeux, avec des Toulousains assurés de se maintenir en Ligue 1 et Montpellier qui est lui aussi quasiment à l'abri. Toulouse encore en infime espoir peut-être de pouvoir accrocher une place européenne et ça passerait évidemment par une victoire ce soir dans ce match qui est très légèrement dominé, mais un match plutôt fermé pour l'instant par les Toulousains qui ont investi le camp montpelliérain, l'équipe montpelliéraine qui présente un effectif à vocation très défensive avec 5 défenseurs alignés au coup d'envoi de cette rencontre. Il y a même un petit rayon de soleil actuellement sur Toulouse où il y a à peu près 24 000 spectateurs ce soir. On espère surtout du spectacle et des buts évidemment. Toujours 0-0 après 8 minutes de jeu.
Toujours mieux ainsi. Patrick Hisson en direct du Stadium de Toulouse. On continue de suivre la rencontre. Et puis à 21h, Lens-Lorient, rencontre à vivre également avec Eric Silvestro et toute l'équipe dans RTL Foot dès 20h. Et cette dernière information, Didier Olé-Nicole, l'ancien entraîneur du PSG, mise hors de cause, accusé d'agression sexuelle par l'une de ses joueuses. Didier Olé-Nicole faisait l'objet d'une information judiciaire depuis 2022. La justice a donc prononcé aujourd'hui un non-lieu.
Merci Charles Ducrot, on vous retrouve à 20h pour les infos. Le temps, Valérie Quintin, encore des pluies ce week-end et encore des températures bien frisquettes.
avec un tout petit 6 degrés demain matin à Caen, 7 à Bourges, 8 degrés à Lille, 10 à Montauban. Un réveil qui sera en plus bien arrosé sur la plupart des régions en dehors du sud et du flanc est. Ces deux parties du pays pourraient profiter d'éclaircies pratiquement toute la journée, sachant tout de même qu'entre l'Alsace et la région Rhône-Alpes, le ciel aura tendance à s'ennuager un petit peu l'après-midi. Pour les autres, donc, beaucoup de nuages, des pluies assez fréquentes, des vents forts, peut-être un retour d'éclaircies sur le nord-ouest en seconde partie de journée et des températures qui restent assez basses. 14 degrés au Havre au meilleur de l'après-midi, 16 à Rennes, 18 à Nancy, 20 degrés à Lyon et 21 pour Montauban et Ajaccio.
Merci Valérie. RTL, bonsoir, c'est Clips. Mais surtout ne bougez pas parce qu'Anaïs Bouton et ses journalistes Erasmus sont en train de s'installer en studio. Ils vont refaire la France dans un instant, Anaïs.
Ouais, et on va parler européenne, figurez-vous, mais ça va être pas mal du tout.
J'aime bien votre accroché. Mais ça va être pas mal. Ça en dit long.
Ça en dit long. Et justement, finalement, on aime les Européennes.
Mais on aime surtout les Européens et ils arrivent. À tout de suite.
Ce soir, dès 20h dans RTL Foot, suivez le match en direct et en intégralité. Tous les buts, toutes les réactions, la Ligue 1, c'est ce soir sur RTL, avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
La vie claire.
Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût? En ce moment, chez La Vie Claire, profitez de moins 15% sur tous nos pains bio, dont nos 22 recettes exclusives. Et dès 30 euros d'achat, on vous offre un pain sportif. Alors, ça vaut le goût ou pas?
La Vie Claire, la bio clairement engagée.
Offre limitée à une personne et par foyer. Voir conditions sur lavieclaire.com. Pour votre santé, bougez plus.
Ils refont la France sur RTL.
Buenas dias.
Namaste.
Avec Anaïs Bouton.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Ils refont la France. Vous le savez, c'est tous les vendredis soirs et c'est l'actualité française vue par les correspondants de la presse étrangère, un peu notre Erasmus, disait Isabelle. Notre Erasmus à nous, cher RTL, avec ce soir
Caroline Lorenz, deutsche Journalistin bei Courrier International.
Joël Meskens, le soir de Bruxelles, bonsoir.
Eva Morletto per Grazia Italia.
Richard Verli du quotidien Suisse Blick, bonsoir.
Et puis...
Un cavalier qui surgit. Juan José Dorado, journaliste espagnol. Là, j'essaye de faire ma plus belle
mais
voix
oui,
en espagnol.
Mais oui, Don Diego de la Vega. On a tous
ça me souvenir. Rappelle mes temps où je doublais des voix.
Oh là là, c'était sur FR3 à l'époque. Vous vous souvenez pas, ça, Juan Rosé. Allez, bonsoir. Merci à tous les cinq d'être là pour refaire la France. Au programme ce soir, on va parler du grand débat des 7 têtes de liste qui sont en tête des sondages, puisqu'il aura lieu, dimanche sur RTL. Donc, on va parler de ça, de ces européennes. On va parler de From the River to the Fac, c'est-à-dire From the River to the Sea, c'est le slogan des étudiants pour la Palestine, et on va voir comment ça s'étend dans les facs. On va parler de boire un petit coup, est-ce que c'est finalement plus si agréable? Et puis avec vous, on va parler du coq de la discorde, Caroline. Allez, on y va.
Jusqu'à 20h, ils refont la France avec Anaïs Bouton.
Moi, je fais campagne sur le destin de la France et sur le destin de l'Europe.
La question, ça n'est pas est-ce que vous voulez plus ou moins d'Europe, mais est-ce que vous voulez plus ou plus d'Europe?
Ces élections européennes sont sans aucun doute les plus importantes de l'histoire.
Une Europe qui défendrait son identité et sa civilisation.
Mais comment faire entendre la France et la voix des Français au sein de ce Parlement?
C'est le moment de se battre pour une Europe qui nous protège.
Est-ce qu'on continue sur l'autoroute du chaos ou est-ce qu'on s'en donne la force collectivement de tout changer?
Alors voilà, vous avez reconnu leur voix de nos 7 têtes de liste. C'était le florilège des face-à-face qui ont déjà eu lieu chez nos confrères de Public Sénat, de BFM TV. Dimanche, moi j'ai l'honneur de co-animer le premier grand débat des Européennes avec les 7 premières têtes de liste sous la houlette d'Olivier Boss, le patron du service politique de RTL. Vous pourrez l'écouter sur RTL de 12 à 14 heures pour vous faire une idée avant le 9 juin. L'occasion, les amis, de faire un petit point sur ces élections cruciales dans un monde en recomposition ou en décomposition, Joël Meskens.
Tout est dit. Effectivement, la formule est très bonne. Ce sont des élections qui sont vraiment charnières pour l'Europe. On est entré dans un monde nouveau et c'est vraiment un rendez-vous très très important. Et en ce sens, Emmanuel Macron avait raison dans son deuxième discours de la Sorbonne d'insister sur la dramatisation du contexte aujourd'hui. L'Europe peut mourir, plus rien n'est comme avant. On n'est plus du tout, évidemment, dans l'atmosphère des débuts de la construction européenne. On n'est plus du tout à la chute du mur de Berlin. On est dans un contexte qui est complètement différent, avec la guerre à nos portes, avec aussi un contexte sur le commerce mondial qui a complètement changé, avec des lois qui ont changé, et même un monde sans foi ni loi, avec une défense, évidemment, qui pose question et qui demande des réactions d'urgence. Si Donald Trump est élu en plus aux États-Unis, il pourrait se retirer de ce parapluie américain qui nous protégeait jusqu'ici. Donc il est urgent de réagir. Et je trouve un peu dommage que cette campagne européenne rate un peu ses enjeux et ne parle pas beaucoup d'Europe, mais parle beaucoup d'enjeux trop franco-français.
Vous voulez dire c'est une élection qui ne passionne pas forcément les Français. Cela dit, ils sont déjà en mai, 64% des personnes inscrites qui déclarent être intéressées par le scrutin du 9 juin, selon le sondage BVA pour RTL. Richard Verly, vous trouvez ça inquiétant, ce 64%, ou encourageant? Parce que les taux de participation en France aux dernières élections européennes n'étaient pas très hauts. Hein.
Oui, ça va être le grand...
À peine à 50%.
Ça va être le grand défi, mais si on regarde, si on considère que les médias sont un baromètre, les médias parlent beaucoup de cette campagne européenne. Alors, bien évidemment, souvent sous l'angle national, et en arrière-plan, il y a toujours le vote sanction ou pas contre Emmanuel Macron. Mais d'abord, moi, je trouve... Prenons les bons éléments, quand même. Bons éléments, c'est qu'on peut penser ce qu'on veut des têtes de liste, mais quelques-unes sont très porteuses. Jordan Bardella, médiatiquement, c'est quelqu'un qui porte. Raphaël Glucksmann, c'est quelqu'un qui porte également. Valérie Ayer, c'est plus difficile, mais on sait qu'elle a derrière l'ombre du président de la République. Et il y a Gabriel Attal, le Premier ministre, qui est maintenant prêt à débattre. Bref, je trouve que il y a un intérêt politique. Manon Aubry, la sortante de la France Insoumise, se débrouille plutôt bien. C'est plus difficile pour la candidate écologiste, effectivement. Et puis Marion Maréchal-Le Pen, pour Reconquête, est une figure médiatique. Enfin, d'accord, elle est connue des gens. Donc ça, je trouve que c'est un bon point. Le deuxième bon point, c'est que effectivement, en dramatisant le sujet européen,
vous n'avez Emmanuel pas cité Macron, François-Xavier Bellamy.
Non, je ne l'ai pas cité parce qu'effectivement, de
pour
tous, c'est sans doute un des plus dynamiques au point de vue de la campagne, mais je ne pense pas que ce soit un des plus connus.
D'accord.
Mais effectivement, on pourrait le mettre. Bref, il y a un bon casting. Je trouve, c'est quand même important. Il y a une dramatisation des enjeux et de ce point de vue-là, on peut penser qu'Emmanuel Macron a eu raison. Il a eu raison sans doute à vocation politique. D'ailleurs, je crois que son temps de parole va être décompté au titre de la majorité présidentielle. Et puis enfin, troisième chose, c'est qu'il y a la guerre en Ukraine, ne l'oublions pas. Je ne parle même pas des événements qui se déroulent au Proche-Orient, mais parlons de ce qui se passe sur le continent européen. Et bien évidemment, ça intensifie, je dirais, l'enjeu de ces élections. Donc voilà, après, s'il y a de l'abstention forte dans ces conditions, ça nous amènera une fois de plus à nous demander que peut-on faire pour intéresser les gens à l'Europe alors qu'elle est au rendez-vous de nos vies quotidiennes.
Est-ce qu'ils sont plus intéressés dans vos pays, les gens, Juan José Dorajo, c'est quoi l'abstention en Espagne, par exemple?
En Espagne, lors des dernières élections, c'est 60% des gens qui sont allés voter.
Ah oui, c'est plus.
Donc,
alors.
Plus qu'en France, à peu près 10 points de plus qu'en France, et ça va être légèrement supérieur cette année. Donc si la France est aujourd'hui à 64, selon les estimations, l'Espagne sera près des 70%. Moi, j'entends tout ça, c'est très bien qu'on parle de l'Europe, sauf qu'en France, comme d'ailleurs en Espagne aussi, les enjeux sont nationaux. Les gens vont voter en fonction
en Italie aussi,
du vote contre ou du vote pour. Et ce qui m'interpelle le plus, c'est que après avoir entendu Emmanuel Macron, je crois qu'il a raison d'appeler, je suis d'accord avec vous, sauf que Emmanuel Macron, c'est aussi un cavalier seul. C'est lui qui, depuis qu'il est arrivé, il ne parle de l'Europe, mais il n'a pas aussi avancé qu'on aurait souhaité avec lui. C'est lui qui, lors de la guerre en Ukraine, a continué à faire cavalier seul. Il est allé seul à Moscou. Même pas le représentant, M. Borrell, n'était pas...
Mais vous trouvez, ça c'est votre côté espagnol. Vous ne trouvez pas qu'il tire un peu la sonnette d'alarme, finalement, le président
Macron? Ah non, mais il fait ça très bien. Il tire la sonnette d'alarme tout le temps. Mais par contre, derrière, qu'est-ce qui se passe?
Mais justement, je vous demande.
C'est ça le problème, c'est que depuis 7 ans, il tire la sonnette d'alarme. Mais... à un moment donné, il va falloir se bouger un tout petit peu quand même.
C'est à tout le monde de se réveiller, non, Eva Morletto?
Oui, mais le problème, c'est qu'en fait, il tire la sonnette d'alarme sur des arguments. En fait, il n'y a pas une harmonisation des enjeux pour les citoyens et des enjeux pour les politiques. Et c'est ça qui crée un problème. Quand Macron, par exemple, parle beaucoup de la défense de l'Europe, avec des idées qui pourraient aussi être bonnes, vu qu'on a des guerres à nos portes. Donc, il parle d'une académie européenne, donc commune, militaire. Il parle d'une sorte de dôme de fer pour protéger la voie. Mais ça, c'est pas un argument qui concerne énormément les Français ni les Européens pour l'instant. Pour l'instant.
Vous reprochez à la fois d'avoir des enjeux nationaux et en même temps de. Enfin, on peut pas reprocher. Oui, mais au contraire.
Aujourd'hui, les enjeux qui intéressent vraiment, et c'est malheureusement ce qui fait un peu les jeux du Rassemblement national,
c'est le pouvoir d'achat.
Le pouvoir d'achat.
Le prix de l'énergie.
Exactement.
Caroline Lawrence, quand vous lisez les journaux européens, est-ce que cette préoccupation, cette élection européenne qui devient un peu nationale, c'est dans tous les pays?
Justement, ça fait un peu sourire parce qu'on lit tous les titres de la presse européenne, on constate que tout le monde, aussi bien sur son pays à lui que sur les autres, dit bon, il ne s'intéresse pas beaucoup à l'Europe, les enjeux sont nationaux. À chaque fois, dans tous les pays, c'est pareil. Donc en France aussi. Je trouve encore que Emmanuel Macron, il fait pas mal de titres. Il a fait un deuxième discours de la Sorbonne. Il a eu une du Economist tout de suite après, avec une grande interview comme en 2017. Donc c'est encore quelqu'un qui arrive à mobiliser quand même pour le sujet. L'impression que j'ai sur la France, sur la presse étrangère, c'est que concernant les européennes, ce qui intéresse, c'est le vote sanction ou pas sanction du gouvernement, première chose, et la suite du mandat Macron. Et deuxième chose, la figure qui fascine, c'est Jordan Bardella.
On va en reparler justement. Allez, une petite pause et dans un instant, l'Europe, comme disait Charles de Gaulle, vous vous souvenez? C'est pour pas sauter comme un cabri. Bon allez, on en reparle tout de suite. À tout de suite sur RTL.
Jusqu'à 20h,
ils refont la France avec Anaïs Bouton. À tous les enfants qui savent que les carottes, ça ne rend pas forcément aimable, que les épinards, ça ne fait pas pousser les biscottos, mais que les betteraves, alors oui, ça fait faire pipi rose. Eh ben, mangez des asperges, vous verrez, c'est rigolo aussi. Jusqu'à samedi, Intermarché propose l'asperge blanche violette Origine France à seulement 6,49€ le kilo. Et tous les week-ends, vous avez 10% en avantage carte sur le rayon fruits et légumes. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Calibre 16-22 mm, catégorie 1.
Eh oui, ce que l'on remarque en premier chez vous, c'est votre portail. Alors choisissez la qualité J-Pass. Tous les produits J-Pass sur jpass.fr.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
Là, j'aspire au calme.
Ah, c'est raté. En ce moment, avec l'offre Super Weekend, Lidl fait moins 33% sur l'aspirateur sans fil Silvercrest garantie 3 ans. Soit 19,99€ au lieu de 29,99€.
Moins de 20€ l'aspirateur 2 en 1. On nous vend du vent.
Ah non patron, plutôt un aspirateur à main et balai avec technologie cyclonique et filtre EPA.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 50 centimes d'éco-participation, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Il n'y a pas d'âge pour apprécier un bon repas. Et choisir les menus services, c'est se simplifier la vie. Les menus services, le spécialiste du portage du repas à domicile qui s'adapte aux besoins des seniors. Les menus services livrent partout en France des repas variés, équilibrés, avec un large choix de produits de saison. Plus d'infos sur les-menus-services.com.
Jusqu'à 20h, Raphaël Glucksmann notamment.
Grand papier du Spiegel allemand sur Jordan Bardella.
Voilà, donc ça c'était un meeting à Perpignan. Il est en tête des sondages et très loin devant la liste conduite par Valérie Hayek. Qu'est-ce que ça vous inspire là? Il appelle à Perpignan à vraiment voter Rassemblement National et ne pas se laisser séduire par Marion Maréchal. Hein, c'est ce qu'on entend dans sa voix. Joël, qu'est-ce qui vous inspire, Jordan Bardella?
Je pense qu'il a habilement mené sa campagne sur le fait de faire un référendum, de transformer ces élections européennes en référendum anti-Macron. Donc il capte beaucoup de colères qui sont présentes dans ce pays. Colère sociale, colère par rapport à la sécurité. Il y a beaucoup d'inquiétudes aussi. Et donc il rassemble un petit peu tout cela et capitalise là-dessus avec un certain talent, et il faut le lui reconnaître, talent oratoire, talent de débatteur. Encore que moi, j'ai été surprise à regarder le débat, le face-à-face avec Valérie Ayé.
Vous l'avez regardé hier soir.
J'ai regardé donc sur BFM TV hier soir. Et je l'ai trouvé étonnamment tendu, étonnamment nerveux.
Presque. On va voir ça dimanche.
Vous le verrez.
On le verra. Oui,
tendu, le verra, presque agressif, alors qu'il a un boulevard devant lui. Il a le statut d'archi-favori. Et j'ai finalement trouvé que Madame Ayé résistait bien, connaissait ses dossiers, ne se laissait pas démonter. Il n'en a pas fait qu'une bouchée, comme on pouvait l'imaginer.
Comme Emmanuel Macron l'avait fait avec Marine Le Pen, peut-être.
Mais oui, parce que là, on voit toute la fragilité de ce côté populiste qui est là pour charmer. En fait, Bardella a un excellent don, c'est celui des slogans. Quand il parle de sécurité, il dit qu'il faut responsabiliser, sanctionner, etc. Il utilise quelques mots que les Français veulent entendre parce qu'il y a ce genre de crainte.
Il a ce point commun avec Gabriel Attal, d'ailleurs.
Oui, et après, il y a aussi un point commun, puisque je suis italienne et j'ai vu un peu l'évolution de l'extrême droite en Italie, une sorte de victimisation, c'est-à-dire nous, on peut rien dire, sinon... En fait, il est très capable de dire, de créer cette atmosphère comme s'il y avait un complot contre son succès et de faire passer ce message. C'est la même, disons, dynamique qui s'est installée en Italie avec Giorgia Meloni sur le fait que, voilà, lorsqu'elle nomme, par exemple, des directeurs de télévision, qui sont tout à fait à son chevet, elle dit, oui, mais quand on dénonce ces faits-là, elle dit qu'il y a une sorte de complot contre elle. Voilà. Et cette victimisation de l'extrême droite est vraiment un point commun de tous les partis de ce côté.
Richard, vous opinez du chef?
Écoutez, moi je pense que Bardella, il a deux atouts et une difficulté. Son premier atout, c'est qu'il incarne une vraie histoire. On peut pas le cacher, il vient de Seine-Saint-Denis, vous connaissez tous l'histoire, un fils du peuple en quelque sorte, et c'est vrai. Donc ça, c'est quand même important dans une époque où je crois que beaucoup d'électeurs veulent savoir à qui il parle. Quand il parle à Bardella, il parle de quelqu'un qui vient du peuple et donc qui, a priori, comprend les sujets soulevés par les électeurs. Le deuxième atout qu'il a, ne l'oublions pas non plus, je l'ai comparé peut-être un peu méchamment à Ken, vous savez, le copain de Barbie, mais c'est quand même un beau garçon, tout à fait lisse, qui absorbe bien la lumière dans nos temps médiatiques, c'est important. La grande difficulté, en revanche, qu'il a, c'est de construire un discours qui n'est pas simplement fait de slogans, je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire de
Richard,
démontrer...
Oui, mais Richard, vous disiez déjà ça de Gabriel Attal.
Oui, parce que je le pense aussi.
Ah, d'accord.
Tout à fait, c'est pour ça que j'attends avec impatience le débat Attal-Bardella. Je pense qu'Attal est plus construit, c'est-à-dire qu'il a une meilleure connaissance des mécanismes de gouvernement et il a plus d'habileté dans la manière d'expliquer la politique publique que Jordan Bardella, mais j'avoue que le choc des deux va beaucoup m'intéresser.
Alors,
et j'espère qu'il sera sur RTL animé par vous, évidemment.
Ah ben, j'espère aussi, oui. Ah oui, le choc Attal-Bardella, je veux bien ça. Je suis très preneuse sur RTL et RTL aussi, d'ailleurs. Juste un mot sur ces deux gauches irréconciliables. On écoute la petite séquence qui s'est passé ce week-end, si vous voulez bien, Juan José Dorado.
Luxman, casse-toi, ça ne t'est pas à toi.
Je ne suis pas d'accord avec l'expulsion de monsieur Glucksmann.
On ne va pas rester 25 ans sur un incident qu'il monte lui-même en épingle pour encore une fois accuser les insoumis qui ne sont responsables de rien.
Voilà, alors Raphaël Glucksmann s'est fait, conspuer à Saint-Etienne pour le 1er mai, donc il a dû se faire exfiltrer carrément du cortège, il a dit c'est la faute aux insoumis, j'ai vu leur drapeau, alors Jean-Luc Mélenchon a dit pas du tout, c'est pas nous, c'est les communistes, et les communistes ont dit bref, est-ce qu'ils vont pouvoir finir par se marier ces trois-là, parce qu'ensemble, ils sont quand même à plus de 20%, Juan José.
La dernière fois où ils se sont mariés, c'était 1981 et en 82... Ça fout tout à la porte. Parce que depuis, la NUPES, telle que nous la connaissons aujourd'hui, ça a été une construction juste pour les législatives et sauver les meubles. Mais on sait depuis le début qu'ils n'ont rien en commun les uns avec les autres. Alors, ce n'est pas de gauche irréconciliable. Ils ont été toujours irréconciliables.
Ça, ça a été théorisé par Manuel Valls. Hein. C'est ces deux gauches là qui ne peuvent pas s'entendre. C'est-à-dire une de gouvernement et une de rupture, en fait.
Sachant qu'Emmanuel Valls a fait le chemin inverse, il est passé de la gauche à la droite. Donc bon, allez. Non, ce que je veux dire par là, c'est que dans tous les pays, ça a été plus ou moins pareil. En Espagne, vous avez eu deux gauches qui s'unissent à un moment donné parce que politiquement c'était nécessaire. Récemment, le cas du Parti socialiste des Podemos, parce qu'ils étaient tous les deux faibles et ensemble ils pouvaient faire quelque chose. Mais dès que l'un d'eux a eu de la puissance, notamment le Parti socialiste, ils ont foutu à la porte Podemos. Ça, c'est la réalité. Dans ce qui se passe en France, c'est tout à fait normal. Par contre, effectivement, on va peut-être assister, effectivement, avec Raphaël Glucksmann, à une renaissance du Parti Socialiste. On a vu ça il y a quelques années, déjà, il y a plus d'une décennie, en Grèce, où le PASOK avait complètement disparu, et ils ont réussi, après une longue traversée du désert, à revenir dans la politique grecque au niveau qui est celui des socialistes ou des social-démocrates.
Mais Raphaël Glucksmann, Joël, est-ce que c'est pas un peu le chouchou des médias, et puis quoi ?
Oui, ben on va voir. En tout cas, il y a un phénomène. Je ne sais pas si on peut parler de dynamique, parce que les sondeurs vous expliqueront que la dynamique, il faut qu'elle s'accentue dans la dernière ligne droite, et ça, on ne voit pas. Mais il y a un phénomène de curiosité, mais il remplit aussi un vide et une demande à gauche. La gauche a été déçue, le centre-gauche a été déçu des deux quinquennats d'Emmanuel Macron, et cherche à retrouver une assise. Et d'ailleurs, on le voit bien, hein, le dernier président de la République socialiste, François Hollande, cherche à réapparaître aujourd'hui, à occuper aussi cet espace. Donc il faudra voir, maintenant il y a les sondages, il faudra voir, les élections européennes se sont toujours terminées par des surprises, donc le scénario ne sera peut-être pas celui qu'on nous annonce d'une éventuelle bascule, d'un renversement des tendances et un Glucksmann devant Valérie Ayé, on verra. Mais en tout cas, il y a en tout cas un frétillement qui correspond, je pense, à une demande au centre-gauche.
Alors il y a un autre frétillement, hein, il y a plus qu'un frétillement, même c'est dans les facs à Paris et en France, et notamment à Sciences Po. On en parle dans un instant sur RTL.
RTL, ils refont la France.
Avec Anaïs Bouton.
Il était une fois un charmant jeune homme super stressé par l'arrivée imminente de sa dulcinée. Vite, vite, une idée pour dîner. Oh, les tomates rondes en grappe Origine France à 1,99€ le kilo chez Aldi. C'est parti pour la recette adorée de sa belle, les tomates à la provençale. Eh, t'as géré, mec. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, vendu en vrac, offre valable jusqu'au samedi 4 mai. Info sur aldi.fr.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite. Oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer. Oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie. Avec AG2R, la mondiale, constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R, la mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
On en parle.
Les journées de la sécurité routière au travail, c'est du 27 au 31 mai. On en parle dans un instant avec Jean-Marc Fedutti, chef d'entreprise dans le Nord.
Avouez-le, c'est bien pratique les vélos électriques. Surtout quand les beaux jours reviennent et que vous rêvez de petites balades en forêt.
Comment ça, petites ?
Ok, alors pour les petites et les grandes virées, chez Decathlon, on a conçu un vélo tout chemin électrique avec une autonomie jusqu'à 100 km. Et pour vivre le sport grandeur nature, cette semaine, le vélo électrique Riverside 520E est à 999€ au lieu de 1399, soit 400€ de réduction.
Decathlon, élu meilleure chaîne de magasins de sport de l'année.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Et vous aussi, Hervé.
Mais c'est pas vrai.
Si, si, je vous assure. Et écoutez ça. Aujourd'hui, pendant l'alerte discount, le faux filet 3 étoiles à griller Origine France est à 12,90€ le kilo.
Du faux filet à seulement 12,90€ le kilo? Je veux pas le croire.
Pourtant, c'est vrai.
Non, mais je dis pas que c'est faux, mais...
Mais à 12,90€ le kilo, faux filet chez Netto.
Netto, on gagne tous à payer moins cher. Viande bovine, 4 faux filets, 3 étoiles à griller, barquette de 640 grammes environ. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Jusqu'à 20h.
Ils refont la France sur RTL.
Anaïs Bouton.
Et avec moi, Eva Morletto, Joël Meskens, Caroline Lawrence, Juan Rosé Dorado et Richard Verli.
Tu vas laisser vous dégager, genre vraiment, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Partez. BFM, pareil, mais partez. Partez, en fait. Je ne sais pas pourquoi vous acceptez ces livres, sérieusement. Mais partez. Vous n'avez pas
Voilà,
Alors c'est l'occupation de Sciences Po, fermeture de Sciences Po aujourd'hui, d'ailleurs décidée par peur d'une occupation votée hier seulement par une centaine d'étudiants, une centaine sur 14 000 élèves, c'est-à-dire moins de 1%. Joël, est-ce bien raisonnable ?
La jeunesse n'est jamais raisonnable. C'est même ce qui la définit. Il y a toujours une période où on se bat contre les injustices et c'est noble quelque part de se battre contre les injustices maintenant. À travers ce mouvement, on peut se poser beaucoup de questions sur la nature de cette révolte. Ce qui choque, c'est qu'effectivement, il y a d'abord que ce soit une minorité qui agisse et qui bloque les universités, les grandes écoles, et puis surtout au niveau des revendications, elles sont unilatérales. Et je pense que Raphaël Glucksmann, dont on parlait tout à l'heure, a raison de dire que le problème fondamental, c'est que c'est une révolte qui n'est pas inclusive, qui ne permet pas à tout le monde de retrouver retrouver son chemin, de voir ses souffrances reconnues. Ce mouvement aurait eu plus de facilité à passer, je pense, au niveau de l'opinion, si en même temps que de défendre, comme ils le font très justement, les injustices et de s'indigner contre les massacres à Gaza, ils avaient réclamé aussi la libération des otages et redit aussi que le Hamas était un mouvement terroriste et que ce qui s'était passé le 7 octobre était totalement un massacre inacceptable.
Renan Zedrado, vous êtes d'accord avec Joël Meskens?
Sur le papier, oui, c'est très bien.
Et sans le papier.
Sur le papier, mais la réalité après, c'est tout à fait différente. Pourquoi ça se passe comme ça en France? Peut-être parce que ces jeunes-là, une certaine partie de la population française, ont les sentiments que la France, le gouvernement français, a pris déjà parti par un côté, notamment Israël. Et donc, ils sont dans le besoin de défendre la Palestine
faut,
et les
massacres. La politique de France,
on peut pas dire, alors là,
n'a jamais été alignée comme sur Israël.
Oui, mais écoutez, on peut vous donner des exemples. Vous parlez de la France, apparemment, elle est au milieu. Pas du tout, elle est pas au milieu. Elle est plutôt pro-israélienne que pro-palestinienne dans les faits. Et puis, la réalité, après, c'est que quand vous regardez les autres pays, mais écoutez, vous regardez l'Espagne. Pourquoi il n'y a pas d'occupation en Espagne? Mais tout simplement parce que l'Espagne.
L'Espagne est entièrement pro-palestinienne.
Elle est plutôt pro-palestinienne, parce que le gouvernement, depuis quelques semaines, a entamé une tournée pour demander la création d'un État palestinien. Et ça choque en France, vous voyez? Ça choque en France.
Non, enfin, je
ils disent, c'est pas le moment, on va pas insister. Ah, oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je peux comprendre que ça soit, que ces jeunes-là aillent dans la rue. Je pense qu'on n'est pas à 50-50. Ça, sincèrement, je ne le pense pas. J'ai vécu d'autres manifestations pro-israéliennes et pro-palestiniennes à moments différents ces 10 dernières années. Et
pro-israélienne?
Oui, pro-israélienne. J'ai été à deux reprises devant l'ambassade d'Israël pour des manifestations pro-israéliennes et des choses que j'ai entendues devant l'ambassade d'Israël n'ont rien à envier à des choses que j'ai entendues chez les Palestiniens les plus radicaux, sincèrement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je pense que c'est normal qu'ils aillent là-bas. Et ce qui est choquant, je termine avec ça, c'est aussi le fait de voir rentrer les forces de l'ordre dans les universités.
C'est comme aux États-Unis.
Oui.
Il y a un moment.
Vous comparez aux États-Unis, donc c'est parfait, c'est merveilleux.
Mais
quand vous regardez dans d'autres pays, ça se passe pas comme ça.
1% des étudiants peut bloquer une université. Enfin, vous voyez, il y a un moment aussi où la majorité. Oui, d'accord.
C'est toujours une minorité qui bloque. Hein.
Caroline Lorenz, est-ce que ça fait un peu tache d'huile en Europe ou est-ce qu'il y a juste en France que ça barde?
En tout cas, ça, c'est très commenté dans la presse internationale. Et je suis assez d'accord pour dire qu'on voyait les forces de l'ordre dans les universités. Il y a une partie de la presse internationale qui dit que c'est peut-être pas une bonne idée, justement. Et même si on veut creuser un peu plus les fractures de la société, on s'y prendrait pas autrement. Justement, il y avait aujourd'hui un article d'un journal allemand, Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui remettait un peu en cause cette gestion de la crise, en fait, à la fois par l'université et par le gouvernement et les forces de l'ordre, et qui disait. Miser sur une démonstration de force, c'est peut-être pas une bonne idée.
Et vous, ça vous choque, Richard Verli?
Les manifestations?
Non, enfin bon, ou la police dans les universités?
Premièrement, moi je pense qu'on devrait être beaucoup plus attentif à cette colère étudiante. Je pense que la jeunesse, surtout dans nos pays démocratiques, la jeunesse est toujours un baromètre toujours. Bien évidemment, le baromètre peut être un peu déréglé, ça peut être une centaine d'étudiants ou 200 qui bloquent, mais c'est quand même un baromètre. Et cette colère, vous ne la ferez pas disparaître avec des forces de l'ordre dans les universités, vous ne la ferez pas disparaître, comme le veut le gouvernement, avec des rappels à l'ordre. C'est pas vrai. La colère, elle est là. Et c'est une colère qui, à mon avis, dépasse les cercles de quelques étudiants. Alors, pourquoi ça se passe à Sciences Po? Parce que, franchement, si les étudiants de sciences politiques ne manifestaient pas, alors qui va manifester? Donc, il y a un élément déclencheur qui est la particularité de ces universités. N'oublions pas que Sciences Po, par ailleurs, je parle de Sciences Po Paris, tout le réseau Sciences Po est un réseau extrêmement internationalisé, ce qui les a amenés à prendre, et c'est l'un des sujets de contentieux, passer énormément d'accords avec beaucoup d'universités dans le monde, dont des universités israéliennes. Bref, moi je pense que, un, il faut être attentif à cette colère et la prendre pour ce qu'elle est. C'est une indignation qui, en partie, est légitime. Deuxièmement, il faut discuter avec les étudiants et tous ceux qui leur rappellent un certain nombre de choses de base, notamment la nécessité, comme l'a dit Joël, de prendre en compte l'ensemble des actes qui ont été commis et le caractère terroriste du Hamas. Je rappelle juste quand même à propos du Hamas, on peut dire qu'il a fait un assaut terroriste le 7 octobre. Il n'en reste pas moins aujourd'hui une force et un interlocuteur de toute la communauté internationale. La paix, si une paix doit arriver, si un accord doit arriver, elle passera par le Hamas, qu'on le veuille ou non. Donc, ne diabolisons pas ces étudiants, parce que les diaboliser et voir finir par les bastonner, ça ne fera qu'amplifier le phénomène. Il vaut mieux avoir du courage, aller les voir, discuter, même si ça dure longtemps. Et puis, très franchement, pardonnez-moi, mais si j'ai vu tout à l'heure que l'école de journalisme de Lille était occupée, tout le monde s'en fout un peu.
Vous êtes pas sympa.
Mais non, mais parce que non, je le dis sérieusement, il y a des universités ou des institutions d'études supérieures tout à fait particulières. Une école de journalisme, c'est quand même un petit appendice dans les études supérieures en général.
Eva Morlotto, juste une petite phrase pour conclure.
Oui, alors, je trouve que c'est un peu un gâchis ce qui s'est passé, dans le sens que je suis plutôt d'accord avec le fait d'être attentif à la colère des jeunes, parce que là on condense tout autour du conflit israélo-palestinien, mais en fait la colère des jeunes, c'est encore des bribes en fait d'un héritage de ce qui s'est passé pendant la guerre froide, c'est-à-dire on revoit les mêmes scènes des campus pendant la guerre du Vietnam.
Et ça en fait, il y a cette chose, la guerre du Vietnam,
j'en reviens justement dans le sens que là il y a une colère qui pourrait être audible, parce que c'est la colère d'un sud du monde qui lève la tête. Et ça pourrait être parfaitement audible. Le problème, c'est que ce mouvement-là, il y a quand même des éléments radicaux qui gâchent tous les discours. Quand on voit des étudiants avec les mains rouges de sang qui rappellent le massacre de deux soldats israéliens à Ramallah, ben là, du coup, on a envie de se dissocier.
Allez, pour détendre un peu l'atmosphère, quelques mots. Une scène de l'aventure, c'est l'aventure. Je ne sais pas si vous connaissez ce film.
Explique. Non, alors, je veux que tu comprennes.
Oui, mais alors deux secondes. Hein.
Deux secondes. Vas-y. Le capital, c'est foutu. La cinquième, c'est foutu. Le PC, c'est foutu. La société de consommation, c'est fini tout ça, c'est foutu.
Vous connaissez ce film de Claude Lelouch, L'aventure, c'est l'aventure. Regardez-le ce soir, c'est absolument merveilleux. Et c'est donc Antoine qui explique à Lino Ventura, son père qui n'en peut plus, qu'il fait la révolution, que le capital, c'est foutu, etc. Allez, une pause et puis dans un petit instant, allez, viens boire un petit coup à la maison. Ou pas. A tout de suite sur RTL.
Jusqu'à 20h,
ils refont la France sur RTL.
On en parle.
Les journées de la sécurité routière au travail, c'est du 27 au 31 mai. On en parle avec Jean-Marc Feduti, vous êtes le gérant de Flandre C2E à Auchy-les-Mines, où je vous appelle. Alors Jean-Marc, pourquoi participez-vous à cet événement?
Vous savez, les accidents de la route sont la première cause de mortalité dans le cadre du travail.
Mais oui.
Et les conséquences sont lourdes, aussi bien pour les salariés que pour les employeurs.
Et donc, comment sécurisez-vous vos salariés?
Eh bien, on a instauré un contrôle régulier des véhicules de société, sensibilisé nos collaborateurs par de l'affichage dans les locaux, et on a créé un challenge sécurité pour encourager les bons comportements sur la route, avec bien sûr l'attribution d'une prime de fin d'année en bon d'achat.
Merci beaucoup.
On en parle. Pour participer aux journées de la sécurité routière au travail, rendez-vous sur sécurité-routière.gouv.fr.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, il est à 79 centimes.
Le concombre ?
Eh oui, en ce moment chez Lidl, le concombre est à 79 centimes la pièce.
Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Et le deuxième est à moins 50%, soit 39 centimes le concombre. Ça revient à 1,18€ le lot de deux.
Oh, Ah, oh, ils encombrent vraiment pas. On est mal.
Bah, c'est le pompon, moi.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Catégorie 1, Origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Bonjour, c'est Stéphane Rothenberg. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres à travers l'Asie du Sud-Est, c'est au cœur de la cité millénaire d'Hanoï que s'achève Pékin Express. Mais alors, qui remportera la grande finale ?
Inédit, Pékin Express sur les traces du Tigre d'Or, la finale, c'est demain à 21h10 sur M6.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Et vous aussi, Hervé ?
Mais c'est pas vrai !
Si, si, je vous assure ! Et écoutez ça, aujourd'hui, pendant l'alerte discount, le faux filet 3 étoiles à griller Origine France est à 12,90€ le kilo !
Du faux filet à seulement 12,90€ le kilo ? Je veux pas le croire !
Pourtant, c'est vrai !
Non, mais je dis pas que c'est faux, mais...
Mais à 12,90€ le kilo, faux filet chez Netto !
Netto, on gagne tous à payer moins cher. Viande bovine, 4 faux filets, 3 étoiles à griller, barquette de 640 grammes environ. Pour votre santé, bougez plus.
Jusqu'à 20h.
Ils refont la France sur RTL.
Anaïs Bouton.
Et avec moi, Eva Morletto, Joël Meskens, Caroline Lawrence, Juan José Dorado et Richard Verli. C'était samedi sur le plateau de Léa Salamé sur France 2. L'animatrice demandait à l'humoriste Artus comment il avait lutté contre ses angoisses.
Alors j'ai fait plein de petits trucs en plus et ça va beaucoup mieux. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer.
Ah, vous êtes devenu chiant. Non mais je veux dire, vous êtes plus angoissé mais vous êtes chiant.
Oui, c'est très français ça, de dire, c'est marrant parce que dès qu'on dit qu'on arrête de boire, on devient chiant. Alors que putain, c'est bien en fait de pas boire de l'alcool forcément.
Ah là là, dis donc.
Bon, j'ai arrêté la suite parce qu'après, bon bref. Alors, une remarque sur un plateau de télévision, vous dites, Richard, sur Blic.fr, et qui est votre support de presse, et les réseaux sociaux s'enflamment. Cette saillie de plateau, cette vanne de plateau est devenue un débat sociétal, Richard.
Oui, parce qu'elle peut être éventuellement drôle, mais elle est déplacée à cette heure-là sur le service public. C'est vrai qu'il y a un problème. Dire ce genre de choses quand quelqu'un vous dit j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, et lui faire ce type de répartie, à mon avis d'ailleurs, elle l'a peut-être regretté, je ne sais pas. C'était pas malin. Le service public n'est pas supposé donner ce genre d'appréciation. Je rappelle juste que la publicité pour l'alcool est interdite, vous le savez tous, enfin encadrée, que la publicité pour le tabac aussi. Donc je trouve que c'est pas malin. Et en l'occurrence, je ne connaissais pas cet humoriste. Il était sincère, semble-t-il, quand il disait que ça lui avait fait du bien d'arrêter de boire et de fumer.
Et surtout qu'il a l'air voilà.
Je trouve que c'est respectable.
Il avait l'air de consommer. Il disait qu'il avait même fait l'épilepsie à force de boire. Donc on rappelle.
C'était pas le lieu, pas le moment, pas les bonnes paroles.
On n'est pas là pour donner des leçons non plus. Mais est-ce que c'est. Il a raison. Est-ce que c'est très français finalement ce truc de dire détends-toi, bois un coup, Joël.
Oui, complètement. Je voudrais pas tomber à bras raccourcis sur Léa Salamé. Richard a raison, mais je veux dire, elle est le reflet de toute la société. On a tous entendu ça. Je sais pas si vous êtes allé à des soirées où parfois vous aviez pas envie de boire et vous avez trouvé. Moi, ça m'est arrivé de devoir trouver un prétexte pour.
Et dire, ben, Olivier Gerre n'est pas trop de l'info ici aussi. M'ont raconté qu'il était dans une soirée récemment et que il a dit bah non, mais moi je conduis donc je bois pas et que tous ses copains lui ont dit
ah bon, t'es malade.
Oui, c'est ça.
Il y a un truc qui va pas.
Allez, détends-toi, etc. Ouais, c'est très fort.
Je pense que finalement, cet incident ou cette anecdote, je sais pas comment il faut le ou ce fait de société, comment il faut le qualifier, mais ce qui s'est passé doit tous nous interpeller aussi, parce qu'on a aussi, dans l'autre sens, peut-être aussi connu tous des moments où on se dit ah oui, c'est moins drôle d'aller une soirée si on boit pas. Oh, je vais pas pouvoir boire ce soir, ça va être moins sympa, etc. Je pense que toute la société est imprimée par cette culture du fait que la fête, c'est quelque chose qui pétille avec des alcools, etc. Regardez les messages qu'on s'envoie pour les anniversaires. On fait la fête, on envoie des petites émoticônes avec des petits verres qui trinquent, etc. Cette référence est absolument partout.
Bah oui, Eva Morletto en Italie aussi.
Oui, tout à fait. Mais
c'est la même chose en Italie, quand vous allez dans une fête, on vous dit allez, va.
Alors, moins qu'en France. Mais c'est pour ça que je voudrais juste défendre minimum Léa Salamé. Parce qu'en fait, elle a fait cette vanne et elle est une femme. Et c'était plutôt déstabilisant parce qu'en général, cette phrase-là sont dites par les hommes sur les femmes pour vous dire en fait, si tu bois pas, tu sais pas faire la fête, t'es un peu crispé, t'es trop sage, etc. Donc le fait d'avoir vu inverser un peu les rôles, j'avoue que ça m'a légèrement amusée, parce que je trouvais ça un peu déstabilisant. Et après, ça pose aussi la question, est-ce qu'on peut, on peut rire finalement si on fait de l'ironie? Pourquoi pas? Je veux dire, on ne peut pas sanctionner un certain type d'ironie de manière et de l'autre. Après, je suis d'accord avec Richard, c'est les services publics, c'est une heure de grande écoute. Il y a quand même 49 000 morts en France chaque année dues à l'alcoolisme. C'est pas drôle. Et donc, du coup, il fallait peut-être faire plus attention.
Bon, mais on peut rire de tout, on peut plus rien dire.
On peut plus rien dire. Je trouve que ce qu'elle a dit, ça m'a pas choqué. J'ai vu l'émission, ouais. Ça m'a pas choqué. Elle a voulu faire une blague, ça a été très, très mal pris. Ben, je suis vraiment désolé, ça m'a pas du tout choqué du tout. Vous voyez, et ça vient dans un pays qui est le 12e consommateur de vin au monde. Un pays qui défend le vin comme vraiment un produit national. Ben, vous savez, il y a moins de...
Avec modération, bien sûr, parce qu'on le rappelle,
en Italie,
oui,
on boit
40 000 décès
par an. En Espagne, on boit beaucoup moins.
Ah ouais.
Qu'il y a 10 ans, beaucoup moins. Allez. Les jeunes vont dans les fêtes, ils ne boivent pas d'alcool.
Oui, il paraît que
donc,
c'est...
apparemment, ouais. Vous êtes vraiment ceux qui s'indignent parce qu'une présentatrice a essayé un joli mot qui n'a pas marché. Et par contre, vous vendez à tout le monde le vin que vous consommez. Vous êtes le 12e pays qui boit le plus après les Portugais, ça c'est vrai.
Après, Caroline.
Après, on dit aujourd'hui, oh là là, c'est très français comme réflexion. On dit peut-être bientôt, c'était français, parce que c'est complètement en train de changer.
Ah bon,
je pense, selon les chiffres, la consommation de vin et d'alcool en général est en train de décrisser.
Vous le dites d'emblée, que, Richard, vous dites qu'on est passé entre 1970 et 2020 de 21,5 litres à 11,5 litres, c'est
là,
oui. Faut déjà se les emmener.
Le paradoxe, c'est que les Français sont sobres maintenant et quelque part, peut-être qu'ils sont devenus chiants. Posons la question. Voilà, dans cette émission, c'est peut-être ça le problème. J'ai
Caroline,
coupé la parole.
Pardon, je vous ai coupé.
Non. Mais
c'est pas simplement un truc français ou c'est un truc très français.
Aujourd'hui, c'est peut-être très français, mais ce qu'on voit, enfin, et ce qui retient encore une fois l'attention aujourd'hui de la presse internationale, c'est que les jeunes français aujourd'hui boivent de moins en moins.
Oui, c'est vrai.
Il y avait récemment un reportage qui partait du Point Éphémère à Paris, qui est un lieu de fête, hein, plutôt, et qui faisait des soirées sans alcool, dans des bars sans alcool, avec plein d'apéritifs sans alcool, et que, entre les 20 et 30 ans, les habitudes ont totalement changé, il y a plus de...
Bon, eh ben on va faire une petite pause sans alcool, et puis dans un instant...
On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue.
Ouais. Caroline, vous allez nous raconter qu'il y a des néo-ruraux, des gens qui vont vivre à la campagne, et ben ça les dérange beaucoup, le chant du coq, l'odeur des vaches, tout ça. On en parle dans un instant sur RTL.
RTL.
Sie erfinden Frankreich neu.
Ils refont la France.
Avec Anaïs Bouton.
Mince, une fuite, en plein yoga. Ah mais ouf, je peux me donner à fond sans crainte maintenant avec AllWest Discreet. Ça retient toutes mes fuites urinaires et je me sens protégée dans toutes les situations. AllWest Discreet, protection fiable, discrétion incroyable.
Dispositif médical.
Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme la paire, vous font des prix sur les nouveautés du moment? Pas sur des nouveautés qui datent de pfiou. Jusqu'au 27 mai, pendant l'opération C'est nouveau et c'est moins cher, découvrez notre cuisine en kit de la nouvelle collection à moins de 1 500 € seulement. Moins de 1 500 € la cuisine, garantie 25 ans et fabriquée par la paire. Une offre comme ça, même chez la paire, il n'y en a pas deux. Conditions sur lapaire.fr.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Il n'y a pas d'âge pour apprécier un bon repas. Et choisir les menus services, c'est se simplifier la vie. Les menus services, le spécialiste du portage du repas à domicile qui s'adapte aux besoins des seniors. Les menus services livrent partout en France des repas variés, équilibrés, avec un large choix de produits de saison. Plus d'infos sur les-menus-services.com.
Bonjour, c'est Natacha Calestrémé. Et si le bonheur, l'épanouissement, la sérénité ne tenaient qu'à une chose ? Trouvez votre place. Dans mon livre, je vous propose 22 protocoles concrets pour être enfin vous-même.
Trouvez ma place, de Natacha Calestrémé, le livre phénomène enfin en poche chez HarperCollins Poche.
Chez Poltrone Sofa, la qualité se voit, mais surtout, elle se ressent. Caressez le cuir du canapé Bormida et détendez-vous avec son relax électrique.
Jusqu'à demain, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1184 euros.
Venez les ressentir en magasin. Poltrone Sofa, solo divan di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
On vous connaît, vous l'ouvrez tous les jours. Alors choisissez la qualité J-Pass. J-Pass, porte de garage et portail. Tous les produits J-Pass sur jpass.fr.
Dimanche à 12h, retrouvez le grand jury spécial élections européennes.
C'est le premier débat entre les 7 têtes de liste aux élections européennes. Programme contre programme, argument contre argument. Pour qui allez-vous voter? 2 heures d'émission pour vous faire une opinion en direct sur RTL et Paris Première, en partenariat avec M6, Le Figaro et LCP, la chaîne parlementaire.
Le grand jury spécial élections européennes, présenté par Olivier Bost, c'est dimanche entre 12h et 14h sur RTL.
Jusqu'à 20h.
Ils refont la France sur RTL.
Anaïs Bouton.
Et avec moi, Eva Morletto, Joël Meskens, Juan José Dorado, Richard Verli, Caroline Lorenz. Caroline, ça va être à vous parce que c'est la rubrique sacrée
française. Sacré français.
Absolument. Chaque semaine, Courrier International qui sélectionne et qui traduit toutes les pépites de la presse internationale nous propose donc une pépite. Et ce soir, qu'est-ce que vous avez déniché, Caroline?
Alors, la pépite de la semaine nous vient du Royaume-Uni et du quotidien The Guardian. Il nous emmène dans l'idyllique campagne française où les ruisseaux murmurent, les grillons chantent et
bah oui,
les cloches sonnent au loin.
Bah, bien sûr, vous ça c'est la campagne française.
Mais pas du tout. Constate The Guardian. Au contraire, dans la campagne française, c'est le boucan. Ah les litiges entre agriculteurs néo-ruraux pour des plaintes à cause de bruit et des nuisances prennent une telle ampleur que les députés viennent de voter une nouvelle loi en avril pour assurer le bon vivre ensemble à la campagne.
Je vous fais un élément de la campagne française, d'accord? Voilà, vous avez fait le coq. Moi, j'ai passé mon enfance dans une ferme, les amis, parce que j'adore les animaux.
Et alors, qui va faire le bruit de la tondeuse aussi? Parce que c'est un autre alors, bruit de la campagne française.
Allez-y.
Mes enfants s'interrogent, le gardien qui peut bien se plaindre à ce point des bruits? Car pour croire que la campagne, c'est un havre de paix sans entrave rancune, il faut être un peu, voire sacrément, parisien.
Eh oui.
Alors, la campagne, c'est bien cela. Les tailles haies tôt le matin, les traces de sangliers dans le jardin, sans oublier le rallye automobile qui passe sous votre fenêtre le dimanche. Pourtant, pour la journaliste, elle s'appelle Day Burning Sava, dont les parents vivent en bordure des Cévennes, le boucan, c'est plutôt un signe du bon vivre ensemble. Et elle en fait une description très détaillée et très sympathique. Il y a un long paragraphe sur les cloches de l'église qui sonne un ressenti de 300 fois par jour.
En ressenti.
Après les cloches des églises viennent les cloches des bêtes, les discussions entre voisins ou encore le bruit du boucher. La nuit, ce sont les grenouilles. Le week-end, les courses cyclistes.
Ah, personne ne sait faire la grenouille.
Les interminables fêtes du village, la campagne ne dort jamais, aurait-elle pu titrer son article, mais en fin de compte, conclut-elle, c'est le tapage de la campagne, un tapage qui a un côté fortifiant, juste parce qu'il montre qu'elle est encore vivante, et c'est ça qui compte avant.
Ça, c'est vrai. Il y a plein d'histoires de gens qui se sont fait embêter parce qu'ils avaient des marais, des grenouilles ou des coqs, mon coq chéri. C'est la même chose en Suisse, Richard. Est-ce que les urbains embêtent les ruraux?
Mais écoutez, je vais vous raconter une histoire. Il y a un Français récemment, ça a fait la une de quelques journaux en Suisse, je crois que c'était dans le canton du Jura, si je ne me trompe pas. Les auditeurs pourront rechercher. Un Français qui demandait et qui devait être naturalisé suisse, et dans certains cantons, il faut que la population approuve la naturalisation. Dans certains cantons suisses, oui.
Ah,
et il ne l'a pas été parce qu'il passait sa tondeuse et faisait du bruit le dimanche.
Non.
Voilà.
mais ça, c'est pas le bruit de la campagne.
Non, la tondeuse, c'est la campagne. Là,
je pense que les Français sont un peu lents à la détente. Vous venez de voter une loi, en Espagne ça a été voté en 2003. Donc vous êtes lents. Et puis, moi, espagnol, j'ai acheté une maison dans l'Orne, dans un hameau, et je suis entouré des vaches. J'adore ça le matin.
Bah oui, c'est génial.
Mais j'adore ça.
Bah oui.
Donc, il y a des petits cas en Espagne, effectivement, qui ont protesté, mais bon, écoutez, vous n'êtes pas content, vous vous en allez. Vous n'aimez pas les cloches,
vous allez pas
déménager.
En fait.
Vous n'aimez pas le coq, bah vous déménagez. Donc, c'est si simple que ça.
Eva. Mais visiblement, c'est plus compliqué que ça, parce que moi, une histoire qui m'avait marquée, c'était celle d'un Parisien qui allait vivre à la campagne. Je crois que c'était juste après les Covid, où il y a eu énormément de gens urbains qui voulaient aller vivre à la campagne, peut-être en idéalisant la campagne. Et une fois qu'ils y étaient, en fait, il avait dénoncé son voisin qui avait une étable avec beaucoup d'animaux, beaucoup de vaches. Et finalement, ce paysan avait dû payer une amende. Voilà, il avait dû indemniser son voisin pour les bruits des vaches. Voilà. Ça, j'avais trouvé plutôt absurde.
Ça, vous avez un sourire jusqu'aux oreilles.
Ça donne envie de partir. Hein,
oui,
tout
c'est
petit,
vrai.
Hein. Absolument.
Ça donne envie d'aller dans l'Orne ou en Alsace ou à la campagne, c'est vrai. Bon, les amis, merci beaucoup d'être venus refaire la France avec nous et avec les auditeurs de RTL. Vous n'oubliez surtout pas qu'il y a le grand débat du grand jury des 7 têtes de liste pour l'élection européenne dimanche sur RTL entre 12 et 14 heures avec Myriam Ankawa de LCP, avec Pauline Buisson de M6, avec Jim Jarrassé du Figaro sous la houlette d'Olivier Bost qui est le patron du service politique de RTL. Et ça, vous pouvez le voir en direct aussi sur Paris Première, canal 31 de la TNT. Il revend la France, revient vendredi prochain, bien sûr, même heure. Et vous retrouverez l'émission sur RTL.fr et sur l'appli dans un instant. RTL Foot avec Eric Silvestro, mais auparavant un point sur l'actualité. Allez, bon week-end sur RTL.
RTL.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Il est temps de retrouver un nouveau parieur gagnant sur RTL. Accueillons tout de suite Gérald de Lyon. Salut Gérald.
Salut Karim.
Gérald, alors toi, tu as fait le choix de faire un pari sur 3 matchs en indiquant pour chacun le résultat à la mi-temps et à la fin du match. Et je remarque que tu t'es sécurisé avec un cash-out sur le dernier match de ton combiné après l'ouverture du score de Ben Yedder face à Lyon. J'imagine que c'était une stratégie de ta part.
Oui, c'était une stratégie de ma part, je veux dire, au niveau des 3 matchs, mais surtout après l'ouverture du score par Ben Yedder, parce que j'étais dans le stade et je voyais pas les Lyonnais attendre la mi-temps pour revenir au score. Et j'ai décidé donc de faire un cash-out.
Est-ce que tu peux nous dire combien tu as gagné, quelle était ta mise et quelle était ta cote, s'il te plaît?
Bah en fait, j'ai misé 2 euros sur une cote à 14 000 environ pour un gain de 2000 euros.
Magnifique, Gérald. Pour seulement 2 euros de mise, c'est très très bien joué. Alors, pour les parieurs débutants,